La France parle beaucoup de climat, mais les discours sont-ils vraiment suivis des faits dans le but d'atteindre la neutralité carbone en 2050? Il y a deux ans, Emmanuel Macron, un peu moins de deux ans, a installé un haut conseil pour le climat afin d'évaluer les avancées françaises en matière de lutte contre les gaz à effet de serre. Quelques mois plus tard, ce même organisme indépendant critiquait dans deux rapports les insuffisances climatiques dans les politiques publiques de notre pays. Pourquoi la France est-elle en décalage entre les ambitions qu'elle affiche et la réduction réelle de ses émissions de CO2 dans de nombreux secteurs? Je reçois dans un instant la climatologue Corinne Le Quéret, la présidente du Haut Conseil pour le Climat. Et vous pouvez lui poser dès maintenant toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Passons au vert ensemble dans quelques minutes.
Est-ce que vous aimez le tennis? Parce que je vais vous parler de Roger Federer dans un instant.
Très bien. Dans la deuxième demi-heure, un nouveau reportage de Juliette Proutot sur la dépollution des terres qui servent aux chantiers. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Henri, un auditeur qui a fondé une association pour planter des mini-forêts en ville. Et puis enfin, nos invités découvertes, vous vous souvenez certainement de la chanson du groupe Elmer Footbeat, Le Plastique, c'est fantastique. Et bien Manu, son chanteur, viendra nous parler d'une nouvelle version de ce tube intitulé Le Plastique, c'est dramatique, avec le navigateur Yvan Bourgnon. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Tiffany Battistel et Florent Layani.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Corinne Le Quéret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes climatologue à l'université d'East Anglia en Grande-Bretagne et vous êtes donc la présidente du Haut Conseil pour le Climat. Vous êtes également membre du Comité sur le changement climatique, un organisme qui conseille le gouvernement britannique depuis 2008. On va donc parler avec vous de lutte française contre les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que d'abord vous pourriez nous présenter ce Haut Conseil pour le Climat qui a été créé, je le rappelle, à la demande d'Emmanuel Macron en 2018?
Oui, tout à fait. Bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui. Donc le Haut Conseil pour le Climat, c'est un groupe d'experts indépendants, donc 13 personnes, des experts en climatologie comme moi-même, mais aussi en transition énergétique, en agriculture, en économie, qui se penchent sur la stratégie du gouvernement. Donc on est chargé chaque année d'émettre une évaluation de la stratégie du gouvernement en matière de neutralité carbone et d'émettre des recommandations. Donc on a publié en juin dernier notre premier rapport et alors suivi tout de suite en décembre un second rapport. Pour faire un suivi, histoire de faire un suivi. Donc je vais vous en parler aujourd'hui.
C'est ça. C'est plutôt une bonne idée que le gouvernement soit suivi de près, justement, pour voir où en est sa stratégie climatique, non?
Tout à fait, tout à fait. C'est une bonne idée sur deux volets, en fait. Le premier, c'est le regard indépendant. Donc, on regarde ce que le gouvernement fait. On a critiqué, comme vous avez peut-être vu. Et c'est important. C'est important de pouvoir regarder de manière critique l'approche du gouvernement. Et aussi, l'autre volet, c'est vraiment un volet à long terme, donc l'atteinte de la neutralité carbone que l'on souhaite atteindre en France, elle va prendre du temps. Mais en même temps, on a besoin des mesures, à mettre en place des mesures tout de suite. Oui. Et il faut vraiment voir la stratégie dans son ensemble.
Oui. Corinne Le Quéret, tiens, s'il fallait noter ou donner un mot pour résumer aujourd'hui l'action climatique française, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme vocable qui pourrait résumer vraiment?
Un mot, beaucoup d'ambition, mais dans les actions, on est un peu en retard.
Ouais. Oui. Faut rester diplomate quand même quand on fait partie de ce Haut Conseil pour le Climat et que, évidemment, quand même, ça a été fait à la demande du gouvernement.
Oui. Pas forcément diplomate, mais en fait, on veut pas se mettre les gens à dos. Ce qu'on veut, c'est qu'on avance. Donc, on veut effectivement donner des recommandations qui soient réalistes, qui soient pratiques, qui soient reçues et mises en œuvre. Ouais. Donc, c'est sûr que il faut les donner de manière à ce qu'elles soient recevables.
Ouais. Vous avez fait des recommandations justement pour le gouvernement dont vous attendiez une réponse ou des réponses de la part de ce même gouvernement. Rien n'est venu. Pour l'instant, silence. Où est-ce que vous en êtes?
Ah là, justement, on vient de recevoir un communiqué de la réponse du gouvernement. Donc, le gouvernement s'est engagé dans les 6 mois à répondre à notre rapport annuel, mais il ne répond pas à nous, il répond au Parlement et il répond au Conseil, le CESE, Conseil économique, social et environnemental. Donc, sa réponse, là, est en cours. C'est une réponse qui est interministérielle, qui vient du Premier ministre. Donc, c'est très bien. Je ne vais pas vous parler parler de la réponse aujourd'hui. Ouais. Là,
mais vous l'avez reçu, en tout cas. Donc vous en, vous en avez la teneur.
Donc on en a la teneur.
Que vous ne pouvez pas encore dévoiler.
Voilà, exactement.
Et quand est-ce que ce sera dévoilé pour le grand public?
Ah là, ça sera au gouvernement de le faire. Donc là, je ne peux pas vous dire. Mm-hmm. Mais je peux vous dire que du coup, la dynamique dans son ensemble, là, du Haut Conseil, elle est vraiment enclenchée. C'est-à-dire qu'on a publié un rapport et le gouvernement a publié sa réponse. Et l'année prochaine, on publiera un autre rapport sur l'évolution de la réponse, etc. Donc c'est ça la dynamique qui va faire en sorte, on espère, qu'on va avancer.
Bon, je vais quand même vous donner trois mots. Vous êtes satisfaite, dubitative ou très déçue par la réponse du gouvernement?
Ben, je suis satisfaite qu'elle soit là.
Donc, mais sur la réponse en elle-même, sur la nature de la réponse.
Là, je ne veux pas vous dire tout de suite, parce qu'il faut vraiment qu'on regarde en détail.
Bon, en tout cas, parmi les critiques émises justement sur la politique climatique de la France, il y a deux chiffres que vous citez, je trouve qu'ils sont très très parlants. Sur la période 2015-2018, la France a réalisé 41 milliards d'euros d'investissements favorables au climat, et dans le même temps, elle faisait 75 milliards d'investissements défavorables au climat. Donc on est vraiment dans le négatif, là encore. Hein.
Oui, effectivement, notre premier constat, c'est qu'il n'y a pas une cohérence complète entre les politiques publiques et l'atteinte de la neutralité carbone. Donc, d'un côté, on a des mesures pour atteindre la neutralité carbone, et de l'autre côté, on a des investissements qui vont contre. Donc, c'est vraiment notre première recommandation, c'est de faire en sorte que la stratégie pour atteindre la neutralité carbone, elle soit au centre de toutes les politiques publiques en France.
Ouais, là encore, cette neutralité, elle a été inscrite dans un calendrier à l'occasion de la loi de transition en 2015. Donc c'est aussi un objectif très précis fixé par la France. Hein.
Tout à fait. La neutralité carbone en 2050, elle est aussi maintenant dans la loi énergie-climat. Donc elle doit être le phare pour les décisions du gouvernement national et aussi régional. Hein. Donc c'est toute la France qui doit s'y mettre.
Alors pourquoi la France, selon vous, justement, n'est pas encore sur les rails précisément de cette neutralité. Quels sont les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui n'ont pas été tenus là aujourd'hui? Quels sont les secteurs les plus importants concernés par cette déception, au fond, de l'objectif climatique?
Donc déjà, la France, en fait, c'est difficile en France. Donc il faut admettre que c'est difficile parce que l'électricité, elle est déjà décarbonée en France à cause de l'apport du nucléaire. Donc du coup, comparé à beaucoup d'autres pays, par exemple l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où on a du charbon pour produire de l'électricité, on parle beaucoup plus d'émissions. Alors qu'en France, on en est déjà à réduire les émissions partout, dans les autres secteurs qui sont beaucoup plus difficiles, donc dans les transports, dans le chauffage des bâtiments, dans l'agriculture, dans l'industrie. Donc, on a vraiment les émissions qu'on appelle les émissions diffuses parce qu'elles nous concernent tous.
Ce qui explique qu'en France, ça baisse moins par rapport à la moyenne européenne, par exemple.
Exactement. C'est ce qui explique pourquoi la France, déjà, elle a moins d'émissions par personne que la moyenne européenne. Et du coup, c'est plus difficile, les émissions sont plus difficiles à réduire. Mais ça n'excuse pas qu'on a beaucoup d'efforts à faire. Par exemple, le secteur qui émet le plus en France, ça, c'est le transport, avec 31% des émissions. C'est presque un tiers des émissions viennent du transport, l'automobile en gros. Et du coup, dans ce secteur, les émissions, elles n'ont pas diminué depuis 10 ans.
Ouais.
Donc là, il y a vraiment un gros problème.
Corinne Le Quéret, au sujet des transports et de l'automobile en particulier, on va écouter Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. C'était le 2 décembre dernier, à l'occasion de la journée de la filière automobile. Voilà ce qu'il disait.
J'adore la voiture. J'aime conduire, j'adore conduire. Et donc, je ne fais pas partie de tous ceux qui réclament la fin de la voiture, la disparition de la voiture. La voiture, c'est la liberté. Et tous ceux qui condamnent aussi facilement la voiture devraient se souvenir de ce que c'était que l'Union soviétique il y a quelques années. J'y suis allé. Et ce qui m'avait le plus frappé à l'époque, dans ce voyage dans les années 80 dans l'Union soviétique, c'est qu'il n'y avait pas de voiture, parce qu'il n'y avait pas de liberté. La voiture, c'est la liberté. Et cette liberté-là, je tiens à ce qu'elle soit garantie à l'avenir, dans le respect évidemment de notre planète, dans le respect de l'environnement. Mais n'oublions pas tout ce que la voiture apporte à notre société.
Corinne Le Quéret, une réaction. La voiture, c'est la liberté. Dans la bouche du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, à l'heure justement, on essaie de baisser nos émissions de CO2. Ça fait mal aux oreilles quand même, non?
Ben, dans sa stratégie, le gouvernement mise beaucoup sur l'électrification de la voiture. Il y a beaucoup d'autres opportunités pour réduire les émissions au niveau du transport. Par exemple, le transport partagé avec les nouvelles applis, le transport en commun, le vélo, la marche. Et aussi, effectivement, la voiture électrique. électrique. Donc, si on mise sur la voiture électrique, du coup, il faut vraiment électrifier tout le secteur. Il faut poser des bornes, il faut faire en sorte qu'elles soient abordables pour les citoyens. Mm-hmm. Et là, en ce moment, la stratégie du gouvernement, elle est en retard sur beaucoup de l'électrification, ouais, en même temps que sur toutes les autres filières.
Mais il y a un affichage, puisque Bruno Le Maire a dit il y a quelques jours, lors de ses vœux aux acteurs économiques, qu'il voulait que, je cite, la transition écologique soit la clé de voûte des décisions de Bercy.
Voilà, exactement.
Est-ce que c'est possible?
Justement, Monsieur Le Maire est en train d'élaborer un pacte productif qui va guider l'industrialisation de la France les 15 prochaines années, et il veut mettre la transition écologique au centre de son pacte productif. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, il faut voir dans les mesures comment est-ce que ça va fonctionner. Est-ce que comment on peut préparer l'industrie pour faire sa juste part de la transition énergétique.
Sauf que, est-ce que la voiture électrique, c'est vraiment la panacée? Parce qu'on a fait des émissions sur le sujet qui montraient que le bilan carbone même de la voiture électrique, si on calcule toute la filière, il n'est pas forcément extraordinaire non plus, et qui ne va pas forcément non plus compenser toutes nos émissions.
Oui, justement. Donc, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier vers la voiture électrique, mais il faut avoir une stratégie qui soit vraiment cohérente avec la neutralité carbone. Donc, il faut regarder justement les émissions de la voiture électrique en même temps que les autres mesures qu'on peut mettre en place.
Allez, s'il fallait retenir les deux points noirs finalement du bilan, c'est les transports et le bâtiment aujourd'hui, Corinne Le Perret, en France.
Oui, le bâtiment aussi bien qu'au bâtiment. Dans le secteur des bâtiments, c'est le chauffage en gros. Ouais. Donc là, le problème est différent. Les émissions, elles diminuent. On fait beaucoup de rénovations énergétiques dans les bâtiments, mais elles ne livrent pas la réduction en émissions escomptée. Mm-hmm. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est parce que les rénovations ne sont pas suffisamment profondes ou est-ce qu'elles ne sont pas performantes ou est-ce qu'il n'y en a pas assez? Et là, on ne voit pas bien quel est le problème, d'où la nécessité de faire des évaluations.
On va en discuter également avec les auditeurs dans un instant. Juste un tout petit mot très rapide, il y a quand même des bons points ou pas pour la France qu'on peut citer?
Les objectifs sont très bons. Ouais. Il y a beaucoup de discours national et international.
Ah oui, les discours, oui.
Oui, mais c'est important, les discours. Et on ne voit pas ça dans tous les pays. C'est important de dire, voilà, on va vers la neutralité carbone. Voilà, il faut que le monde aussi aille vers la neutralité carbone.
Mais concrètement, est-ce qu'il y a un secteur qui est plutôt quand même bien placé aujourd'hui sur justement cet élan vers la neutralité carbone?
Il y a des secteurs qui ont atteint leurs objectifs, mais pas forcément parce qu'ils avaient un objectif très ambitieux. Par exemple, l'agriculture avait un objectif de pas augmenter leurs émissions et ils les ont pas augmentées, donc c'est pas forcément très bien. Par contre, au niveau de l'industrie, au niveau de la production de l'énergie, là, les émissions ont diminué.
Allez, on se retrouve dans un instant sur l'action ou l'inaction climatique, hein, selon, et les auditeurs ont des questions, Corinne Le Curé, à vous poser au standard de La Terre au Carré. À tout de suite.
France Inter. La Terre au Carré.
J'ai enfilé mon short et j'ai pris ma raquette, car on passe au vert avec Roger Federer aujourd'hui, Camille.
Eh oui, ce cher Roger, champion de la raquette ultra populaire avec 20 titres en Grand Chelem, c'est le record. Aujourd'hui, numéro 3 du tennis mondial après être resté numéro 1 presque 6 ans au total dans sa carrière. C'est un record aussi. Le Suisse est arrivé à Melbourne, c'est lui qu'on entend taper la balle. Il a commencé à s'entraîner parce que l'Open d'Australie démarre dans une semaine tout juste, en dépit des méga-feux, hein, c'est une autre polémique dont je vous parlerai. Mais revenons à Roger, dont le calme sur le court tout bleu tranche avec ce qu'il vient de se prendre en pleine tête, et il n'est pas question d'une balle jaune, mais de ce qu'on appelle un énorme bad buzz. Je vous explique. Roger Federer est sponsorisé, entre autres, par le Crédit Suisse, une banque où il possède un compte. C'est en tout cas ce qu'il disait en 2011.
J'ai un compte épargne que mes parents ont ouvert à ma naissance en 81. Je pense que c'est très important d'avoir une bonne banque avec soi qui donne les bons conseils avec des experts partout. Ça me permet d'être plus détendu quand je pars en tournoi. Je sais que quelqu'un s'occupe des finances. Et c'est pour ça que je suis très fier d'être un client du Crédit Suisse.
Voilà, avec la petite musique, hein, Mathieu, parce que c'était sur le tournage d'une pub pour la banque dont il est ambassadeur depuis 2009. Et vous allez me dire, mais quel rapport avec la planète, n'est-ce pas?
C'est vrai.
Eh bien voilà, le Crédit Suisse investit dans les énergies fossiles. Plus de 57 milliards de dollars depuis 3 ans pour rechercher des gisements, d'après les ONG qui se mobilisent contre elles. 3 agences occupées en novembre 2018. Le procès de 12 des militants avait lieu hier et ils ont tous été acquittés car le juge a considéré que leur action était justifiée vu l'urgence climatique, vu aussi peut-être la pression médiatique, car c'est Roger Federer lui-même qui a été visé avec une pétition et une vidéo sur Internet.
Roger, réveillez-vous. Roger, réveille-toi.
Roger, wake up.
Roger, Besnys.
Roger, Revitoir.
Roger, Dushiganesh.
Roger, I'm
Imran
Roger.
Roger,
Svillet. Et Roger, on t'aime tellement, mais on aime aussi une planète où on peut respirer, où on peut bien vivre. En Suisse, en Australie, à Dubaï, n'importe où, donc c'est le moment d'annoncer que t'es dans notre équipe. Et pas dans celle du Crédit Suisse et des énergies fossiles. Wake up, Roger.
Roger, wake up now, puis Roger for Climate, des hashtags qu'on a vus sur Twitter où la vidéo a été relayée par Greta Thunberg. Autant vous dire que Roger s'est réveillé, hein. Un communiqué d'abord.
Où il disait, je prends très au sérieux les conséquences et la menace du réchauffement climatique. J'apprécie qu'on me rappelle ma responsabilité en tant qu'individu, athlète et entrepreneur et je m'engage à user de ma position privilégiée pour discuter de sujets importants avec mes sponsors.
Puis, une très courte déclaration hier au sujet de l'Australie.
Regardless of what day, what time it is, I'll be helping out. This country has given me everything and more in the past, so it's only but normal for me to help as well.
Voilà, quel que soit le jour ou l'heure, je vais aider. Ce pays m'a tant donné dans le passé, c'est normal de contribuer. Federer va faire un don personnel et participer demain à un match de gala avec Serena Williams et Rafael Nadal en particulier. Pas le choix, pourrait-on dire, parce qu'en visant directement le joueur plus que la banque, les défenseurs du climat ont trouvé un levier d'action extrêmement efficace. Écoutez le spécialiste en communication, Jean-Christophe Alquier.
C'est parce que le sportif est une star, une personnalité mondialement connue, visible, que l'on peut amasser le maximum de points médiatiques et le maximum d'exposition pour les grands sportifs. Il y a en quelque sorte cette obligation de moraliser finalement l'éventail de sponsors avec lesquels il travaille.
Et oui, des sponsors qui soient dignes aux yeux de la société, dit-il. Rappelons par exemple comment Total a été exclu récemment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, ou le partenariat historique entre Shell et Lego, non renouvelé en 2014 après une campagne de Greenpeace.
Sur toutes les pièces de jeu, Lego, qui étaient des pièces industrielles ou représentant une station-service ou un camion-citerne, a posé le logo Shell sur ces pièces. Eh bien, Lego, sous la pression des ONG, a mis fin à ce partenariat, considérant qu'il y avait effectivement beaucoup plus de pertes en image que d'avantages ou de bénéfices.
Mais choisir entre son image et les dizaines de millions que certains sponsors rapportent aux sportifs pour revenir à eux, eh bien, c'est pas évident. D'ailleurs, Federer n'a pas dit renoncer au Crédit Suisse. Et Serena Williams, elle a le géant JP Morgan dans sa liste, qui fait partie du top 4 mondial pour l'investissement bancaire dans les énergies fossiles. Nadal, un constructeur automobile. Bref, la ligne de crête est étroite et en attendant peut-être de franchir le pas, ça aurait de la gueule. Ils compensent à leur manière avec donc un match de gala donné à l'Australie pendant qu'eux s'achètent une bonne conscience.
Camille Passot-Vert, c'est à réécouter sur franceinter.fr.
Corinne Le Quéré, est-ce que c'est un petit peu ce syndrome finalement? On a des discours, on a des intentions et puis quand la réalité notamment économique apparaît, on s'assoit dessus.
Ben oui, tout à fait. Il faut effectivement réduire nos émissions. À la fin, c'est ça qu'il faut faire. Donc des beaux discours, oui, c'est très bien, mais il faut s'y mettre.
Mais il y a des choses qui bougent quand même quand on s'attaque à une star du tennis aujourd'hui pour lui demander de changer justement son braquet, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe là dans la société, non ?
Tout à fait, il y a des choses qui bougent. Et le fait déjà que Roger Federer fasse des déclarations mondiales sur les changements climatiques, c'est déjà...
Là, il n'avait pas trop le choix.
Il n'avait pas le choix, mais quand même, c'est dans l'air du temps. Cette année, on a quand même bien vu beaucoup de grands leaders qui s'y sont mis à dire qu'il faut faire quelque chose pour les changements climatiques. Après, on va s'y mettre.
Corinne Le Quéré, donc avec nous, la présidente du Haut Conseil pour le climat, et toutes vos questions pour elle au standard de la Terre au Carré.
Quand a fera fere e mata alguém, só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém. Não preza a mina de onde cê vem. Faz um ebó pra ele, um ebó pra ele.
Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. De cada um dentro de nós.
Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se der ruim,
derruba, mate e atire em alguém. Que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele.
Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós.
Se criminaliza o direito de alguém de ter moradia e uma terra também. Movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome.
Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós.
À l'instant, le Brésilien Lucas Santana.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Avec nous, la climatologue Corinne Lequéré, présidente du Haut Conseil pour le Climat. Et pour vous, Corinne Lequéré, beaucoup de messages à la fois sur le standard et sur les réseaux sociaux. On va tout de suite accueillir André qui souhaite vous interpeller. Bonjour André.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Corinne Lequéré vous écoute.
Oui, j'aurais aimé que vous redéfinissiez l'expression neutralité carbone, parce que moi je sais ce que ça veut dire, mais il n'y a peut-être pas grand monde qui le sait.
Vous avez raison.
Et puis il y a une question complémentaire que j'ai indiquée, c'est... Dans son premier rapport, le HCC faisait état de la grande différence entre les émissions en France et les émissions indirectement liées à nos importations. Et il n'en a rien été dit pour le moment. Voilà.
Bravo André. Et le HCC, c'est le Conseil pour le Climat, tout simplement.
Donc, merci de la question.
Alors,
Déjà. Donc, le climat se réchauffe. Hein, pour arrêter le réchauffement, stabiliser le climat, il faut que les émissions de gaz à effet de serre, donc CO2 et les gaz à effet de serre à long terme, soient amenées à zéro. Mais il y a des émissions qu'on ne peut pas, franchement, amener à complètement zéro. Par exemple, les émissions de l'agriculture, de l'aviation aussi, autres secteurs. Donc, pour que l'ensemble des émissions soit zéro, il faut créer des puits de carbone. Donc, en gros, des forêts pour compenser les émissions qu'on ne peut pas réduire à zéro. Donc, il s'agit effectivement d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour réduire les émissions et ensuite de planter des arbres.
Ouais. C'est le niveau calculé par rapport à ce qu'il y avait avant l'ère industrielle aussi, ces émissions de carbone. Sur quoi on se base finalement pour établir une moyenne?
Oui, oui, avant l'ère industrielle, on avait justement un équilibre entre les émissions naturelles et les puits naturels. Et là, on cherche à revenir vers cet équilibre.
Ouais. Alors, c'est vrai, ce que soulignait André, ce qu'on ignore aussi beaucoup, c'est que ce bilan carbone, il est aussi lié à nos importations, aux produits qui arrivent chez nous. Et
tout
ça,
à fait.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors?
Tout à fait. Donc, les responsabilités de la France, c'est en fait toutes les émissions qu'on consomme. Et en partie, on consomme des émissions qui sont créditées ailleurs. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, déjà, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire qui réduisent à la fois les émissions du territoire et les émissions importées. Par exemple, toute l'efficacité énergétique, toutes les réductions en gaspillage ont une efficacité très importante sur l'empreinte carbone. Après, ça dépend, ces émissions importées, elles viennent d'où? Si elles viennent d'Europe, l'Europe est en train de mettre en place aussi un objectif de neutralité carbone en 2050. Donc là, si elle y arrive, du coup, ça sera cohérent et c'est bon pour l'empreinte carbone aussi.
Si elles viennent
Si elles viennent de Chine, là, il y a un problème. Donc, il faut vraiment regarder comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ces émissions aussi.
Fabien, par mail, nous dit « L'élevage, surtout industriel, est l'une des plus importantes sources de gaz à effet de serre. Réduire drastiquement notre production, notre consommation de produits animaux est un des principaux leviers d'action. Pourquoi cette question n'est-elle pratiquement jamais mise en avant au niveau politique, Corinne Le Carré ?»
Ah là, au niveau politique, je peux pas vous dire. Au niveau pratique, effectivement, ce qu'on mange est très important. C'est 18 ou 19% de nos émissions viennent de l'agriculture. Il y a beaucoup de mesures qu'on peut mettre en place pour avoir une agriculture qui soit moins intensive en émissions, entre autres, manger plus sainement, manger moins de viande et aussi réduire le gaspillage au niveau de l'agriculture. L'agriculture en France est réglementée beaucoup au niveau européen aussi, à savoir que la réglementation européenne est en cours de révision. Donc, il y aura beaucoup, je pense, de discussions à ce sujet dans les 2 années qui viennent.
Est-ce que vous, à titre personnel, vous mangez moins de viande ou pas?
Ben oui, moi, je suis devenue végétarienne quand on regarde, pas complètement, hein, mais quand on a le nez dans les émissions tous les jours, ça nous encourage quand même beaucoup, ouais, à changer nos propres habitudes.
Et c'est une des plus grandes climatologues internationales qui nous le dit.
Et justement, vous qui êtes climatologue et scientifique, vous êtes entre la France et l'Angleterre, vous parliez de discours tout à l'heure. Comment on fait quand on a un Premier ministre comme Boris Johnson en Angleterre qui n'est pas forcément mobilisé? Est-ce que vous avez parfois affaire à des responsables qui sont encore, comme on dit, climato-sceptiques? Qu'est-ce que vous faites face à eux?
Donc, il y a toutes sortes de discours en politique par rapport au changement climatique. Moi, ce que je regarde, c'est vraiment ce qui se passe dans les actions. Donc, c'est vrai qu'au Royaume-Uni, là, Boris Johnson, il a moins un discours environnemental. Par contre, le Royaume-Uni, il a un objectif de neutralité carbone en 2050. Il a des budgets carbone et il a une stratégie pour atteindre son objectif. Donc, voilà.
Ça, c'est la feuille de route. Donc, il faudra la suivre.
Voilà.
Thomas est en ligne avec nous au standard. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
On écoute votre question, bienvenue à vous.
Alors moi j'aurais une question concernant l'influence des lobbies dans le gouvernement. Alors on nous dit d'isoler nos maisons, de faire des économies d'énergie et on construit en même temps des lotissements à tour de bras. On nous dit de limiter nos déplacements et on continue de faire des autoroutes. On nous dit de consommer local et on continue de faire des centres commerciaux. Où est la cohérence? Aucune. Ne faut-il pas interdire l'entrée des lobbies au gouvernement qui influence les décisions prises en matière environnementale? Merci.
Très bonne question de Thomas pour vous, Corinne Le Carré.
Oui, non, tout à fait. Il y a un gros problème de cohérence dans les politiques publiques. Il faut vraiment mettre en place des évaluations. Par exemple, on vient de publier là un rapport avec des recommandations sur les lois. Donc, quand le gouvernement met des lois et élabore des lois, il faut que ces lois soient cohérentes avec la neutralité carbone. Et donc, c'est au gouvernement de démontrer que ces mesures en place sont cohérentes.
Et qu'il est indépendant face au lobby?
Ben oui, en fait, que ça marche à la fin. Que là, voilà.
Mais vous y croyez, vous, à cette indépendance, franchement?
Ben moi, je crois qu'il y a une vraie volonté d'atteindre les budgets carbone. Je crois qu'il y a beaucoup de réflexion par rapport à ce qu'on doit faire en France. Mm-hmm. Après, il y a la réalité du quotidien qui est autre chose.
Si on prend l'exemple du plastique, par exemple, en 2040, est-ce que c'est les lobbies qui font que ça sera qu'en 2040, l'interdiction des plastiques à usage unique?
Ah là, je peux pas vous dire par rapport au plastique. Là, si on revient au changement climatique, il y a aussi, par exemple, pour la voiture, le même horizon de 2040 pour l'arrêt des voitures à pétrole. Et là, du coup, est-ce que ça, c'est cohérent avec la stratégie du gouvernement? Là, c'est autre chose.
Corinne Le Carré, c'est 46 députés de tous bords qui réclamaient vendredi justement au gouvernement une évaluation climatique des lois en demandant un principe d'irrecevabilité climatique et la mise en place d'un mécanisme contraignant qui permettrait justement de rejeter certaines lois incompatibles avec la neutralité carbone. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche?
Très bien, absolument. Cette lettre, elle reprend beaucoup de nos recommandations de notre rapport qui a été publié en décembre et ils vont plus loin en parlant de irrecevabilité des lois. C'est très fort. C'est-à-dire que quand on met une loi en place, il faut démontrer qu'elle va nous aider à atteindre la neutralité carbone.
Allez, on va accueillir Robin. Bonjour Robin.
Bonjour.
Il nous reste à peine une minute, donc on va aller très très vite. Pardonnez-moi, on vous écoute.
Je voulais évoquer brièvement là le sujet entre énergie renouvelable et biodiversité et faire réagir votre invité sur ce constat que je fais négatif et paradoxal, à savoir que les effets pervers du développement des énergies renouvelables, pour lequel je suis pour, bien sûr, hein, je parle du photovoltaïque, de l'éolien en terre, en mer, etc., se développent souvent dans les espaces naturels, dans les forêts, dans les espaces naturels, en pleine mer demain. Mmh. Et c'est souvent au détriment de la protection de la biodiversité, c'est quand même paradoxal, alors que c'est également un grand point important. Et donc, je voudrais savoir comment on peut faire pour mieux respecter les réglementations, pour préserver la biodiversité, tout en favorisant des énergies renouvelables. Pour résumer, faire des énergies renouvelables, oui, mais pas n'importe où et dans le respect des réglementations.
Alors Robin, merci pour votre question.
Oui, ça, c'est merci. Absolument, vous avez raison. En fait, il faut regarder les impacts environnementaux et les impacts socio-économiques aussi des mesures à mettre en place. C'est une grosse question. Mm-hmm. Et il ne faut pas faire à l'aveuglette. Il faut vraiment aller de manière structurée.
Merci beaucoup Corinne Lecaire. Quelle est la suite de l'agenda pour vous alors, hein, avec le
alors,
Conseil pour le climat?
On a un rapport bâtiment qui arrive bientôt, ouais. Et ensuite le rapport annuel.
Ouais. Et j'indique
et que on va regarder aussi l'empreinte carbone.
Et j'indique que vous avez publié un document grand public, hein, qui fait la synthèse justement de vos travaux. Merci. Il est disponible sur
le
site.
Il est disponible sur le site auconseil.fr.
Voilà, il est absolument important de le lire parce qu'on a plein d'informations et aussi l'état aujourd'hui de la situation de la France.
Merci.
Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui dans la Terre au carré. Juste après les informations, ce sera le feuilleton de Juliette Proutot avec un nouvel épisode consacré aux terres des chantiers du Grand Palais pour voir justement du Grand Paris, pardon, pour voir comment justement on dépollue ces terres en ce moment. Ce sera le deuxième épisode de sa série.
France Inter. La Terre au carré.
Au menu de cette demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Enrico, un auditeur qui a fondé une association pour planter des mini-forêts en ville. On a envie de savoir de quoi il s'agit. Puis enfin, nos invités découvertes, vous vous souvenez du plastique, c'est fantastique.
Évidemment,
Camille.
J'avais 10 ans, je pense, mais je m'en souviens.
Manu, le chanteur du groupe Elmer Footbeat qui revient avec une nouvelle version. Le plastique, c'est dramatique. Bah oui, avec un lien avec le navigateur Yvan Bourgnon. Ils seront tous les deux avec nous dans un instant. Mais pour le moment, nouveau reportage de votre série Juliette Proutot. Bonjour.
Bonjour.
Toute la semaine, vous suivez les terres des chantiers du Grand Paris. Hier, vous nous emmeniez dans le tunnel d'un futur métro, là où elle est extraite et triée. Et aujourd'hui, donc, on suit cette terre avec vous jusqu'à l'étape suivante, là où elle est dépolluée.
Oui, exactement, et dépolluée aux hydrocarbures, précisément. Alors, il faut savoir qu'il n'y a qu'une petite partie des terres excavées, de ces terres excavées, qui est polluée. Et si la plupart du temps, il ne s'agit pas de pollution causée par l'homme, on retrouve parfois, dans certaines terres, des traces d'hydrocarbures. En particulier quand elles proviennent du nord de l'île de France, puisque la région a quand même une longue histoire industrielle. Et ces terres, pour être réutilisées, elles doivent d'abord être traitées. Alors pour savoir comment ça fonctionne, je suis allée faire un tour dans le premier centre fermé de dépollution aux hydrocarbures à La Courneuve. Et avec Jérôme Glasman, le responsable du centre, on a commencé par discuter de tout ce qui pouvait causer ce type de pollution.
On arrive dans la salle de stockage, là où on réceptionne les terres de Paris et de la Petite Couronne. Ce qui peut arriver chez nous, c'est des fuites de chaudières d'anciens bâtiments qui ont ruisselé sur la terre et du coup on récupère toute cette terre-là. Ou alors des anciennes usines de traitement chimique ou des stations essence, par exemple.
Et ensuite, il y a des pollutions pour lesquelles on ne peut rien faire.
Bon, en tout cas, où on va dans des logiques d'enfouissement ou éventuellement de torchoplasma pour les brûler. Typiquement, je pense que l'amiante se traite comme ça, par exemple. Mais en règle générale, on arrive à traiter beaucoup de choses. Tout est une question de coût.
Donc, la salle de stockage est munie de 4 casiers.
Ça fait un peu comme des sortes de grandes places de parking séparées par des murs un peu hauts qui doivent être à 3-4 mètres de hauteur. Chaque place du casier a un numéro et du coup chaque type de terre est rangé dans un casier en particulier.
On fait un tri, chaque casier a son propre chantier, on ne mélange pas les terres. Lorsque les camions déchargent dans les casiers, une déchargeuse récupère la terre et la met dans le cribleur qui permet de trier la terre selon la granulométrie. Tout ce qui est inférieur à 4 cm part dans la salle de traitement. Et tout ce qui est supérieur à 4 cm, donc des bâches en plastique, du bois, du métal, est trié et évacué et sorti du processus.
Comment est-ce que vous dépolluez aux hydrocarbures? Comment est-ce que ça se passe en fait?
On fait intervenir des bactéries pour pouvoir traiter ces terres-là. Dans un premier temps, lorsque les terres arrivent, on fait une analyse d'entrée. Une fois qu'on a le retour d'analyse, qu'on arrive à spécifier le type de pollution, on le met en andin, c'est la forme caractéristique des tas en traitement.
C'est-à-dire c'est...
En talus, une sorte d'éclair au chocolat.
Éclair au chocolat.
On reçoit les bactéries sous forme de poudre que l'on fait croître dans un bioréacteur.
On est donc toujours dans le hangar, mais on est dans un container. Oui, c'est assez impressionnant parce que du coup, dans ce container-là, on arrive, il y a des petits seaux pleins de bactéries, du coup, de poudre de bactéries. Et il y a une grande baignoire qui se referme, quoi.
C'est le bioréacteur.
Et c'est quoi comme type de bactéries ?
Malheureusement, souci.
C'est un secret professionnel.
Oui, voilà.
Voilà, on ressort de notre container. On s'avance au milieu des andins, donc de ces gigantesques éclairs. Alors chocolat, vanille, parce qu'il y a plusieurs couleurs de, il y a plusieurs terres là qui sont à notre droite. C'est des éclairs qui doivent faire 100 mètres de long. Et donc on passe à côté d'une machine qui passe par-dessus l'andin, qui le secoue, qui le retourne un petit peu, presque comme c'était dans un champ, quoi. C'est ça que vous entendez maintenant.
Cette machine, le retourneur d'andin, est utilisée justement pour aérer les bactéries, pour pouvoir apporter de l'oxygène aux bactéries, qu'elles puissent vivre et dégrader les hydrocarbures.
Et ensuite, une fois que les terres elles sont traitées, elles vont où ? Qu'est-ce que vous en faites ?
Donc une fois que les terres sont traitées, on refait une analyse de sortie pour contrôler tous les paramètres qui sont plus tard réutilisés pour faire des aménagements d'espaces verts, des parcs.
Là, il y a des terres du métro, vous pensez ?
Oui, les deux tas sur les côtés, c'est des terres qui viennent de Saint-Denis-Pleyel, du Grand Paris.
Là, on passe devant d'autres tas de terres avec d'autres petites fiches indicatives. Donc Aubervilliers 3. Alors là, c'est quoi comme type de terre, là, celui-là ? C'est quoi ?
Rony.
Oh, à l'œil, vous les...
Ah, je les connais au bout d'un moment.
Bon, j'ai pas réussi à obtenir la recette secrète des bactéries dévoreuses d'essence, mais on en sait déjà un peu plus sur la couleur du sous-sol.
C'est vrai, Juliette. Et pour le prochain épisode, on descendra un peu plus en profondeur dans ce sous-sol demain.
Oui, puisqu'on verra comment les terres du métro sont utilisées, notamment pour combler la plus grande carrière souterraine d'Europe.
Et reportage à réécouter évidemment sur franceinter.fr. À demain, Juliette Proutot.
À demain.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Et nous sommes en ligne avec vous, Enrico, bonjour.
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 Bienvenue, vous avez un camarade qui s'appelle Damien, avec lequel, Enrico, vous avez fondé l'association Boom Forest, dont l'idée est de planter des mini-forêts en ville selon une méthode japonaise. Alors on a très envie de savoir de quoi il s'agit. Racontez-nous un petit peu.
Oui, tout à fait. Suite à un budget participatif édition 2016, on a fondé Boom Forest et on a pu planter à la porte de Montreuil une mini-forêt avec 1200 plantes de 50 espèces locales qui sont plantées très denses l'une de l'autre. On a fait cet événement ouvert au grand public avec tous les citoyens du 20e arrondissement de tout Paris, des mairies riveraines aussi. Et la méthode a été inventée par un botaniste japonais, Akira Miyawaki, qui l'a développée en fait dans 40 ans de ses études de botanique.
Mais Enrico, à la base, votre travail, c'était pas du tout de planter des arbres.
Non, en fait, ça c'était quelque chose qu'on a muré, on a développé au fur et à mesure. C'est une passion, disons, collatérale qu'on a pu investiguer pas mal dans nos petits jardins. Mais c'est seulement au début 2016 qu'on s'est dit il faut faire quelque chose pour nos villes qui sont souvent très très minérales.
Alors Enrico, mini forêt, donc c'est plutôt mini en surface qu'en taille, c'est-à-dire c'est des arbres qui ont une taille entre guillemets normale,
c'est
classique.
C'est pas des forêts de bonsaï, quoi.
C'est pas des petits des
non,
petits arbustes.
Ça. Alors ouais. Alors on plante des petits arbres de 30 cm à peu près de taille, y compris les racines, donc ce sont des petits plants qui sortent des pépinières. Ils ont 2 ans de vie et voilà, la chose importante c'est qu'ils sont locales. Donc ce sont des essences locales. On plantera pas à Paris des essences de Le Havre par exemple ou de Bordeaux. Ça c'est la chose la plus importante à retenir. Il faut rechercher les plantes locales et les planter d'une façon aléatoire.
Et Enrico, voilà. Vous êtes allé au Japon, c'est ça, pour découvrir ces mini forêts au départ, hein, et vous inspirer?
Oui, tout à fait. On est parti au Japon, on est resté 2 semaines avec l'équipe du professeur Miyawaki. Mm-hmm. On a fait une petite semaine, disons, théorique, donc on a pu vraiment approfondir la dynamique des communications des racines, qui est très important pour la croissance rapide des espèces, et une semaine de pratiques au nord du Japon, dans la région de Sendai. On a planté un morceau de forêt linéaire qui, aujourd'hui, est une barrière verte à la force du tsunami, ouais. À la force des vagues.
Voilà, Sendai qui avait été très touché par le tsunami et la catastrophe dont exact. Tout le monde se souvient. Est-ce que ces mini-forêts, ce sont des petites parcelles qu'on peut comme ça mettre vraiment partout, a priori, ou faut des conditions particulières pour les planter?
On peut planter partout. On peut dire qu'on peut planter partout. Il faut faire attention au traitement du sol. Mm-hmm. Au début, surtout dans les villes, dans les terrains délaissés, dans les terrains friches qu'on peut trouver, le sol est très argileux. Donc, il pourra pas forcément accepter des plantes dans cette densité avec laquelle on les plante, donc 3-4 mètres carrés. Mm-hmm. On doit l'enrichir avec du fumier, avec des écorces de drainage pour le rendre plus tendre, fondamentalement, et pour permettre aux plantes, aux jeunes racines, de pouvoir grandir tranquillement sans avoir des risques que la terre devient trop dure. Pendant canicule, par exemple.
Mmh. Et l'utilité, c'est vraiment l'impact qu'elles peuvent avoir, l'impact bénéfique pour ça, ou il y a encore autre chose derrière?
Alors, la chose formidable de la méthode Miyawaki, c'est qu'elle permet en fait d'installer la biodiversité là où aujourd'hui il y en a plus, surtout dans les villes, à côté des autoroutes, par exemple. C'est intéressant de remarquer que après un an, la forêt grandit déjà d'un mètre, 5 centimètres. Hey. Aujourd'hui, dans la première forêt de Montreuil, par exemple, il y a déjà des arbres qui nous dépassent largement. Et
on voit les photos sur votre site, oui. Internet, d'ailleurs. Vous avez mis des photos du Japon. On voit vraiment ces haies aujourd'hui de forêt. C'est magnifique.
Hein. Oui. En fait, là-bas, ils ont planté ils ont utilisé la méthode sur plus de 700 sites.
Oui.
Donc, elle est vraiment très, très, très répandue et appliquée par tous les citoyens.
Et justement, c'est ça aussi qui est important, c'est que ce mouvement, on sent bien qu'il touche tout le monde, hein, aujourd'hui, qu'il y a une vraie volonté de végétaliser aussi les zones urbaines, hein, Enrico.
Oui, en fait, on s'est dit au début, comment peut une personne, un groupe d'amis, sans utiliser de grands investissements, planter une forêt? Comme peuvent les citoyens faire coopérer pour revégétaliser leur quartier? C'est ça la question qu'on s'est posée au tout début, et on a découvert d'autres méthodes, mais celle-ci, ouais, nous a paru vraiment la plus efficace.
Bravo à vous en tous les cas. Ça s'appelle Boom Forest. Chantal Le Montagnier, évidemment, a mis le lien sur le site de la Terre au Carré pour en savoir plus et pour peut-être planter. Merci. Aussi dans votre ville une mini forêt à votre tour. Ben nous aussi on a une forêt devant la maison de la radio, d'ailleurs, Camille, hein.
Oui, c'est vrai,
on a une belle forêt avec de beaux arbres. Merci beaucoup, Enrico. À très bientôt. Merci d'être passé par chez nous. Au revoir. Allez, dans un instant, Elmer Footbeat avec le plastique, c'est dramatique. On va vous raconter l'histoire.
Tu sais, ça fait des semaines que j'y pense. Des semaines qu'entre nous, il n'y a rien qui avance. Et t'as beau avoir de l'encre sous la peau, je t'ai pas dit chérie, mais t'es loin, très loin d'être au niveau. Avec toi ça part, mais je pardonne en tous les sens. De toute façon y'a rien qui compte à part ce que tu ressens. Et t'as beau savoir me parler comme il faut, je t'ai pas dit chérie, mais t'es loin, très loin d'être au niveau. J'ai pas envie de me passer de lui. Pas envie d'embrasser, d'enlacer, d'en aimer un autre que lui. J'ai pas envie de me passer de lui. J'imagine là dans mon ventre, ça me relance. C'est juste que j'ai pas eu ma dose et qu'à l'évidence, t'es pire qu'une meuf qui fait son incomprise. Et tu vas me serrer la main et plus me faire la bise. Mais de la distance, des kilomètres de conséquences. C'est blanc ou noir quand tu veux, je t'apprends les nuances. T'es pire qu'une meuf qui fait son indécise. Et je compte plus les fois ou parfois, ouais, parfois tu me grises. J'ai pas envie de me passer de lui. Incendie, tout s'anime, tout s'en.
chaque fois qu'il me détruit. Chaque fois qu'il me détruit. Chaque fois qu'il me détruit. J'ai pas envie de me passer, passer de lui. Pas envie d'embrasser, d'enlacer, d'en aimer un autre que lui. J'ai pas envie de me passer, passer de lui.
Pas envie, eh bien c'était Marie-Flore à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Souvenez-vous, c'était en 1991. Et 28 ans plus tard, eh bien voilà ce que ça donne.
Le plastique, c'est dramatique. Le caoutchouc, super fou. C'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets.
Elmer Footbeat, vous vous souvenez tous de ce groupe nantais qui a squatté les premières places du top 50 au début des années 90. Eh bien, il fait un retour en force avec son plastique, mais qui cette fois est devenu, vous l'avez entendu, dramatique. Manu, le chanteur d'Elmer Footbeat, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et le navigateur Yvon Bourgnon, bonjour à vous.
Bonjour.
Président et fondateur de l'association The Sea Cleaners. On va comprendre tout de suite le lien, évidemment, entre le groupe et vous, Yvon Bourgnon. Manu, je vais faire ma petite minute. Michel Drucker, juste pour commencer, parce qu'on va confier aux auditeurs que nous avons commencé la radio ensemble.
C'est vrai.
Il y a très longtemps, en 94.
Je vous ai connu en culotte courte.
C'est ça, sur l'antenne de Radio France Loire-Océan à Nantes.
Ouais.
Et on s'était pas retrouvés tous les deux derrière un micro depuis donc 26 ans.
C'est dingue, non? Voilà, et donc... vous n'avez pas changé,
ah
monsieur.
Oui, c'est ça, vous êtes bien gentil. Donc c'est grâce à l'écologie qu'on peut se retrouver aujourd'hui. Avec ce plastique donc qui revient. C'est vrai qu'on avait perdu du vue un petit peu le groupe depuis quelques années. Et puis l'année dernière, donc vous avez produit ce clip, et puis ce nouvel album, Back in Beat. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, finalement ?
D'abord, pourquoi on s'est rencontré avec Yvan ? C'était justement parce que, depuis un moment, on entendait parler, dans les médias notamment, que le plastique n'est pas si fantastique que ça.
Oui,
beaucoup de gens le disaient pour lancer des sujets sur l'écologie ou le plastique en général.
On reprenait le titre de
votre chanson. Et nous, on se disait, faut qu'on fasse quelque chose. On rencontre Yvan, on tombe en amour avec ce jeune homme, on parle et on refait le monde, après un concert à Pornic. Et donc, du coup, on se dit, on va faire quelque chose, faut faire quelque chose.
Ouais.
Donc, le grand Lolo a réécrit un nouveau texte sur la même chanson.
Ouais.
Donc, on n'a rien changé à la structure du morceau. Et donc, on a juste transformé le slogan, parce qu'on a vanté le plastique pendant 30 ans quand
oui,
même.
Oui, c'était pour la bonne cause, cela dit.
Mais c'était pas le même plastique.
C'était pour les préservatifs.
Et le truc, c'est que c'est toujours valable.
Oui, absolument.
Attention,
oui.
Celui-ci est toujours fantastique.
Mais c'est vrai que le titre était gênant à porter pour moi.
Oui. Et du coup, on l'a transformé en plastique, c'est dramatique.
Voilà.
Et d'ailleurs, les industriels veulent notre mort maintenant.
C'est ça, oui. Et donc, vous l'assumez beaucoup mieux, en fait.
Complètement. Mais on assume les deux. C'est ça qui est incroyable. Avec la même chanson, on peut porter deux messages.
Et vous chantez laquelle d'ailleurs sur scène aujourd'hui ?
Toujours le plastique, c'est fantastique.
Ah quand même ?
Oui.
Et vous ne vous faites pas huer par le public ?
Non, mais on fait un petit clin d'œil à la fin du morceau en expliquant justement de quel plastique on parle et que faut arrêter les bouteilles plastiques.
Très bien.
Voilà, il y a le petit message, il passe quand même.
Yvan Bourgnon, vous avez dansé sur MR Footbeat, vous, dans les années 90 ou pas ?
D'autant plus que, en fait, moi je suis de ce coin-là, de Nantes, de Pornic, là où on s'est rencontrés, donc forcément... mes 20 ans, je dansais sur Elmer Footbeat, c'est évident. Ouais.
Alors, c'est quoi le lien, finalement, maintenant ? Alors, on comprend le plastique, mais vous, Skipper, alors ?
Tout simplement, effectivement, cette rencontre à Pornic, un peu improvisée, et on vient voir leur concert, et puis on parle du plastique, et puis on se dit, voilà, évidemment, il est plus si fantastique que ça, et surtout, on rigole, on s'amuse, on a une complicité, et puis on se dit, voilà, pourquoi on ne se lancerait pas dans ce défi de se faire cette chanson et de la dédier, finalement, aux océans, quoi.
Qu'est-ce qu'elle fait votre association, dont vous portez d'ailleurs une polaire, un pull sur les épaules, The Sea Cleaners ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous nettoyez donc la mer apparemment ?
Alors, pas encore aujourd'hui, mais The Sea Cleaners est une association qui a aujourd'hui 3 ans d'âge, qui est basée dans le Morbihan et qui va en fait lancer plusieurs défis. Donc le premier, c'est d'éduquer et sensibiliser les populations à l'échelle planétaire, pour justement éviter que les gens consomment trop de plastique et en tout cas ne fassent en sorte de mieux l'utiliser et de faire en sorte qu'ils ne partent pas dans la nature. Et puis à côté, évidemment, on a inventé un bateau révolutionnaire, le Manta, qui va être mis à l'eau pour la première fois en 2023, qui est un gigantesque bateau.
70 mètres de long, hein, c'est ça pour ce bateau?
Tout à fait.
Ouais. Donc là, il est en construction en ce moment?
La construction va démarrer l'année prochaine.
Ouais.
On a réuni quand même un bon tiers du financement du bateau. Et on poursuit notre chemin là-dessus, et on poursuit surtout les études. On a vraiment l'ambition de développer une centaine de bateaux à travers le monde pour pouvoir agir efficacement.
Donc il y aurait toute une flotte, c'est ça, pour aller ramasser du plastique en mer?
Exactement. Alors il faut bien comprendre que le plastique, il est vraiment dans les embouchures de fleuves, dans des endroits très stratégiques. Il n'y a pas besoin de ratisser toute la surface des océans.
Mmh.
Il faut aller dans ces endroits stratégiques comme le Mékong, le Gange, tous ces grands fleuves, et aller ramasser ces plastiques à la surface en plus grand nombre possible. On sait que la consommation de plastique va augmenter de 40% d'ici 2030. Donc on voit bien que malgré les efforts qu'on pourra faire un peu à terre, qui sont présents surtout en Europe, il faut continuer malheureusement à imaginer aussi la collecte des déchets. On le fait très bien à terre, pourquoi on ne le ferait pas en mer?
Donc Manu, avec Elmer Footbeat, vous portez le message?
Oui, l'idée nous a séduit, donc on s'est dit, on va faire une chanson pour faire la promotion, parce que le but, c'est de faire la promotion de The Sea Cleaners pour attirer des fonds pour construire ce bateau. Nous, on l'a fait comme on fait toujours, en s'amusant. Voilà, donc avec le sourire, avec optimisme, parce que je pense que le message passe mieux lorsqu'il est souriant.
Et l'écologie, c'est un sujet qui vous touche personnellement? Vous êtes devenu, entre guillemets, écolo?
Alors c'est un drôle de truc, parce qu'effectivement, je ne suis pas un écologiste militant, mais on a quelque part, ça vient de notre éducation, et le fait d'être peut-être au bord de la mer, d'être très concerné par ça. Mais j'ai jamais été militant. Sauf que maintenant, effectivement, on se rend compte du problème et on se rend compte que du plastique, on en a plein à la maison. Et tous les jours, on se dit, mais on pourrait se passer de ça. Et donc, du coup, j'ai arrêté les bouteilles plastiques, je commence à plus avoir de brosse à dents, par exemple, en plastique. Donc, c'est que des petits gestes qu'on apprend.
Voilà. Yvan Borgnon, je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'effectivement, sur le papier, votre projet est tout à fait louable et intéressant, mais face à l'ampleur finalement du désastre et de la présence du plastique aujourd'hui en mer, est-ce que véritablement ça sert à quelque chose de monter même une flotte de 100 bateaux pour aller ramasser du plastique, franchement?
En fait, il faut intervenir à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'évidemment, aller ramasser, collecter les déchets, c'est pas suffisant. Il faut aussi intervenir à terre. C'est éduquer, sensibiliser la population un par un. On le fait relativement bien en France et en Europe aujourd'hui. Mais il faut pas oublier qu'il y a 4 pays en Asie du Sud-Est qui déversent la moitié de tout ce qui part dans les océans chaque année. Et donc, il faut aller dans ces pays, en Asie du Sud-Est, faire une action concrète d'éducation et sensibilisation.
Mais ça, je comprends. La part éducative, je la trouve tout à fait intéressante, comme la part scientifique d'ailleurs, puisque vous allez emmener des scientifiques sur le bateau pour essayer de repérer dans l'océan des zones intéressantes à étudier. Mais ramasser le plastique, est-ce que ça représente véritablement un intérêt?
Oui, parce qu'on est à 60% des plastiques aujourd'hui qui partent dans la nature. Si on prend nature à terre comme sur mer, mais il n'y a que 20% des plastiques qui sont recyclés. Donc si à un moment donné, on ne prend pas le truc à bras-le-corps en disant il faut que sur ces 60% des déchets plastiques qui partent dans la nature, on va enlever...
0,0000 combien de pourcents?
On peut faire beaucoup plus que ça.
Ah bon?
300 bateaux de ce type, on peut retirer 20-30% de la pollution qui arrive chaque année dans les océans. C'est comme les camions poubelles, il faut juste développer et démultiplier ces camions poubelles. Il faut bien imaginer qu'il y a 20 fleuves dans le monde qui déversent 65% des plastiques. Donc on poste des bateaux 360 jours par an à l'embouchure de ces fleuves, forcément on va capter une grande partie de ces plastiques. 80% des plastiques flottent au départ. Donc on peut quand même imaginer, pas éradiquer le problème, mais en enlever une grosse partie.
Comment vous allez faire? C'est-à-dire vous les ramassez et après vous faites quoi? Des allers-retours? Vous allez les mettre où? Parce qu'une fois que vous les avez ramassés, ces plastiques, vous en faites quoi?
Alors, ce qui est intéressant de ce bateau, c'est que c'est un bateau intelligent, révolutionnaire, dans le sens où il est autonome et sur le plan énergétique. Il consomme que du soleil, du vent et du plastique. Donc il n'a pas besoin de retourner à la station-service. Mais surtout, il utilise le plastique qu'il va ramasser pour son énergie de bord, à travers une pyrolyse, qui est une technologie toute simple qui fait fondre le plastique à haute température pour le retransformer en carburant, finalement, en énergie. Et cette énergie est directement utilisée par le bateau qui, lui, en a besoin pour ses hélices, pour sa consommation des 40 personnes qui sont à bord. Et donc, en fait, on a réussi à inventer une espèce de plateforme autonome, comme ça, qui n'a pas besoin, finalement, de revenir à terre et qui s'auto-suffit et qui va pouvoir consommer tous ces plastiques au fur et à mesure qu'elle les ramasse.
Voilà, ça s'appelle donc le projet Manta. Toutes les infos sont sur le site de The Sea Cleaners, j'imagine.
Exactement. Hein, vous pouvez nous rejoindre, puis il faut nous soutenir, comme toute association. On a besoin de vous.
Et Manou, avec Elmer Footbeat, vous serez donc sur la scène de l'Opéra de Nantes, là, cette semaine, le 16 et le 17 janvier.
Tout à fait. Oui.
À l'Opéra de Nantes.
Ah, mais oui,
ils sont fous, les Nantais.
Nous, on est une sorte de castafiore.
Vous allez tout casser.
On va tout péter. Alors, faut pas leur dire.
Non, pas encore.
Et oui, c'est un drôle de truc, ça aussi. Il y a des projets comme ça qui nous tombent dessus. Alors, ça nous tombe pas dessus. On a un peu été les chercher quand même. Mais on s'attendait pas à ce qu'ils disent oui. Les Elmer à l'opéra.
Ah, ça, c'est génial.
Ça, c'est énorme.
Est-ce que vous allez interdire la consommation de boissons dans des bouteilles en plastique pour le concert ou pas?
Oui.
Bravo.
De toute façon, ils peuvent pas rentrer avec des boissons.
16 et 17 janvier. Et puis l'album, le nouvel album d'Elmer Footbeat, Back in Beat, qui est sorti en avril. Et vous le disiez, un clin d'œil à l'album d'ACDC, Back in Black. Merci beaucoup à tous les deux.
J'étais très
heureux de vous retrouver, Manou.
Moi aussi, j'étais
content. Et puis, Yvan Bourgnon, longue vie à votre projet. Merci beaucoup.
Le plastique, c'est dramatique.
Voilà, c'est la nouvelle version des Elmer Footbeat. Merci beaucoup, Camille Cronier.
À demain, Mathieu.
Et merci à toute l'équipe de La Terre au Carré.